L'économie américaine nous a rejoué cette bonne vieille comédie, le fameux shutdown, une pièce de théâtre où les politiciens bloquent le budget, menacent de fermer le gouvernement et se battent pour savoir qui a le plus gros ego, pendant que 750 000 fonctionnaires se demandent s'ils vont être payés, et d'ailleurs, pour le moment, ils ne le sont plus. En théorie, c'est grave. Plus d'État, plus de statistiques économiques et une Fed obligée de piloter dans une espèce de brouillard super épais. En pratique, Wall Street a décidé que c'était bullish. Plus c'est pourri, plus ça monte. Chaque mauvaise nouvelle devient une raison d'acheter, puisque plus c'est mauvais, plus on va baisser les taux. Et les taux qui baissent, vous le savez, le marché adore parce que c'est méga bullish. C'est méga bullish depuis 2 ans. Les chiffres de l'emploi sortent mauvais. Champagne, l'État est paralysé, c'est encore mieux. Powell finira par baisser les taux. Résultat, des records historiques sur le S&P 500, alors même que les indicateurs de valorisation du Cape Schiller ou du Buffett Indicator crie au secours. Le contraste est fascinant. D'un côté, un pays qui flirte avec la paralysie budgétaire et qui est fermé aujourd'hui, et de l'autre, des marchés en mode Disneyland où la gravité n'existe plus. On est entré dans une logique absurde. La politique peut dérailler, l'économie ralentir, l'inflation persister. Et tant que la Fed finira par lâcher du lest, tout est interprété comme une bonne nouvelle. Le shutdown n'a donc pas été un drame, mais un fil rouge grotesque qui a servi de prétexte à l'euphorie boursière, un sketch grandeur nature, du véritable stand-up scénarisé qui finit bien à la fin. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet et nous sommes le premier week-end du mois d'octobre. On vient de boucler la première semaine du dernier trimestre de l'année et on est à 2 doigts de commencer la dernière saison des résultats de l'année. Oui, parce que le Q4 sera publié en janvier 2026 et généralement le troisième trimestre est positif 80% du temps. Ça va être encore plus facile. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Si on se retourne sur la semaine qui vient de s'écouler, la première chose qui pourrait surprendre, c'est la performance. Le SMI est en hausse de 4,86%, presque 5% de hausse, et on le verra dans les performances globales tout à l'heure, c'est le meilleur des indices. Il n'y a que le Bitcoin qui fasse mieux cette semaine. Mais au-delà de la performance chiffrée, c'est surtout le fait que le SMI nous aura affiché 5 séances de hausse consécutives sans jamais faiblir, tout comme le S&P et le CAC 40 d'ailleurs. Pourtant, on aurait pu s'attendre à pire puisque la semaine aurait été placée sous le signe du shutdown. Tout au long de la semaine, le mot shutdown a flotté comme une menace permanente. C'est pas la première fois que les États-Unis entrent dans cette paralysie budgétaire, mais le timing était parfait, pile au moment où la Fed avait besoin de données pour décider de la suite. Le principe est simple et absurde, pas de budget validé, gouvernement qui ferme partiellement ses portes, des centaines de milliers de fonctionnaires priés de rester à la maison, des agences statistiques en panne et une économie qui fonctionne au ralenti. Et les fonctionnaires indispensables comme les flics, les militaires, eux ils travaillent, mais ils sont pas payés. Alors dans les faits, ça ne détruit pas Wall Street, mais ça paralyse l'appareil administratif et surtout ça force Jerome Powell à naviguer à vue sans une partie des chiffres qu'il a l'habitude d'utiliser. Il peut plus être data dependent comme il adore tant le répéter. Le shutdown, c'est donc moins une question de crise financière que de chaos institutionnel, mais c'est aussi 0,1% de PIB qui s'envole chaque semaine de fermeture. Cette semaine, le shutdown est devenu un fil rouge. Chaque jour, les investisseurs se demandaient si Washington allait appuyer sur pause ou pas, ou juste continuer à faire semblant de gouverner. Chaque jour jusqu'à mercredi, puisqu'ils ont ensuite annoncé la fermeture, et à l'heure actuelle, c'est toujours fermé. Et si on en croit les experts et les médias américains, ça risque de durer encore parce que chacun campe sur ses positions. Ça devrait durer, mais pour l'instant, on peut le dire, les marchés s'en foutent complètement. Même le fait d'être aveugle des chiffres officiels ne fait pas peur. On sait qu'après les shutdowns, en général, ça monte. Le dernier en date, on avait pris 10% sur 12 mois. Pendant que Washington jouait à se tirer dans les pattes, Wall Street monte parce qu'ils ont confiance. Ça, c'est la schizophrénie boursière. Dans un monde logique, on se dirait qu'une paralysie politique devrait inquiéter les investisseurs. Mais dans le monde réel de 2025, c'est l'inverse. Plus c'est le bordel, plus les indices grimpent. Le S&P 500 a même battu de nouveaux records au beau milieu de tout ça. On termine même la semaine au plus haut de tous les temps. 31e record battu vendredi soir en 2025. Comme si les traders avaient décidé de vivre dans une bulle parallèle, hermétique à la politique, aux fonctionnaires sans salaire, au budget bloqué et à l'économie qui ralentit. La logique est très simple.
tant que la Fed finira par baisser les taux, tout ira bien. Peu importe que le pays joue avec l'idée de fermer boutique, la bourse est en mode risk on, permanent. Le décalage est total, presque comique. Washington brûle et Wall Street sort le champagne chaque jour. On est tellement certain que les taux vont finir par baisser à la fin du mois et à la fin de l'année que plus rien ne peut nous arrêter. Cette semaine, on a encore démontré la règle absurde qui régit les marchés depuis des mois. Les mauvaises nouvelles sont devenues des bonnes nouvelles. Chiffre de l'emploi raté, c'est parfait. Ça veut dire que la Fed sera plus gentille avec nous. Croissance molle, excellent. Ça poussera Powell à sortir l'artillerie accommodante. Inflation qui veut pas baisser, c'est génial. Encore un prétexte pour justifier l'attentisme monétaire. Bref, l'économie peut donner tous les signaux d'essoufflement possibles et imaginables. Les marchés y voient forcément toujours un point positif quelque part. C'est comme si la bourse avait inversé la logique économique classique. Ce qui devrait faire peur excite les investisseurs. Résultat, chaque statistique ratée devient un tremplin pour les indices. C'est un jeu dangereux parce qu'il habitue tout le monde à célébrer la faiblesse économique sans se demander ce que ça signifie vraiment sur le terrain, dans la réalité économique. D'ailleurs, au sujet de l'emploi, parce que cette semaine, c'était quand même censé être la semaine de l'emploi, on n'a pas eu les non-farm payrolls parce que le BLS était renvoyé à la maison sans solde, mais on a quand même pu prendre note que les JOLTS étaient pas terribles et que les chiffres de l'emploi ADP, la version privée des NFP, étaient franchement dégueulasses puisqu'ils ont détruit des emplois au mois de septembre et révisé les chiffres du mois d'août pour passer en négatif également. Là aussi, c'est pas grave, Powell, il va baisser les taux. Et si le shutdown perdure sur le mois d'octobre, les 750 000 fonctionnaires seront intégrés dans les chiffres du chômage, un taux de chômage qui pourrait monter à 5% début novembre. Mais là non plus, c'est pas grave, Powell va baisser les taux. Les marchés sont donc au plus haut, mais derrière l'euphorie apparente, les voyants rouges commencent à clignoter, le Cape Schiller qui mesure la valorisation des actions par rapport à leur profit est au plus haut, le Buffett Indicator qui compare la valeur totale du marché à la taille de l'économie hurle que les prix sont déconnectés du réel. En clair, on paye les actions plus cher que jamais, alors même que l'économie ralentit d'une évidence crasse. C'est pas une toute petite alerte, hein, c'est une sirène de pompiers, mais les marchés s'emmeuvent complètement parce qu'ils ne regardent plus que les promesses de baisse de taux. Oui, je sais, je le répète beaucoup, mais c'est comme ça. Le plus ironique dans tout ça, c'est que certains secteurs flambent, alors que d'autres se font laminer, la tech brille, mais la vieille économie s'essouffle. Le marché n'est plus un bloc homogène, mais une façade très brillante qui a quand même pas mal de fissures profondes à l'intérieur. Et comme il y a de plus en plus de monde qui arrive dans les médias pour annoncer la fin du monde boursier et des crashs imminents tous les jours, on peut se positionner à contre-pied et se dire que c'est pas comme ça que ça va baisser. Au fond, le shutdown n'a été qu'un prétexte. Ce qui a dominé la semaine, c'est ce sentiment d'euphorie boursière totalement déconnecté du réel. Les marchés ont choisi d'ignorer la politique, de fermer les yeux sur l'économie et de se réfugier dans un optimisme délirant. Chaque mauvaise nouvelle devenait un signe positif, chaque alerte une opportunité, mais cette euphorie cache quand même une réalité beaucoup plus sombre, une économie qui ralentit, une inflation pas totalement maîtrisée et une Fed coincé entre prudence et pression politique. C'est un peu comme un décor de cinéma aujourd'hui. Devant, tout est lumineux, mais alors derrière, c'est du carton pâte qui menace de s'écrouler à la première alerte. Pour l'instant, les marchés surfent sur l'illusion, mais à force de transformer les problèmes en bonnes nouvelles, ils construisent une bulle où plus rien n'a de sens. Mais tant qu'on continue d'y croire et de s'enthousiasmer sur la baisse des taux à venir, sur l'IA qui va nous changer le monde, ou de la valorisation d'OpenAI qui dépasse les 500 milliards de dollars, rien ne peut nous arriver. Un jour, il se passera quelque chose, il y aura un crash, ça c'est sûr, de nouveau, c'est inévitable. Par contre, pour le moment, l'euphorie peut encore durer. Et le problème avec l'euphorie, c'est qu'on sait tous plus ou moins quand c'est que ça commence, mais il est pratiquement impossible de savoir quand est-ce qu'elle se termine. La baisse des taux d'octobre est actée, celle de décembre aussi, Powell n'aura pas le choix. Maintenant, on va se concentrer sur les publications des chiffres trimestriels qui vont commencer à tomber dans 10 jours. Et qui nous tiendront en haleine jusqu'au 19 novembre, date de la publication des chiffres trimestriels de Nvidia, bien sûr. En Suisse, l'économie continue de jouer petit bras, mais avance quand même. Après une croissance un peu mollassonne de 0,8% en 2023, le produit intérieur brut a repris un peu de vitesse en 2024. Ils affichent 1,4% de croissance. Rien de spectaculaire, mais ça prouve quand même que la machine tourne encore. D'ailleurs, du côté de Zurich, le fameux baromètre conjoncturel du COF a montré une petite embellie en septembre. Pas l'euphorie non plus, mais assez pour donner le sentiment que l'économie respire un peu mieux quand même. La Banque Nationale Suisse, elle, elle n'a pas chômé, elle a repris sérieusement ses achats de devises au deuxième trimestre, plus qu'au trimestre précédent et plus qu'il y a un an. Un signal clair qu'elle garde quand même un œil attentif sur le franc trop fort et sur la compétitivité du pays. Tout n'est pas rose non plus. Dans le commerce de détail, les chiffres d'affaires se sont repliés en août après deux bons mois. Si on enlève l'effet des jours fériés et des week-ends, la baisse est de 0,8% en volume par rapport à l'an dernier et de 0,2% en valeur une fois que l'inflation est prise en compte. Justement, cette inflation reste incroyablement sage en Suisse, plus 0,2% sur un an en septembre, et même une petite contraction de 0,2% sur un mois. Autant dire que la Suisse vit toujours dans sa bulle de stabilité des prix, pendant que le reste du monde est en train de transpirer pour lutter contre cette fameuse inflation. Il y a quand même des secteurs qui sourient. L'hôtellerie a connu un excellent été. Rien qu'en août, les hôtels suisses ont enregistré 5 millions de nuitées, soit plus 3,2% par rapport à août 2024. Et c'est pas un coup de chance. La tendance est positive depuis juin avec une croissance progressive de 1,8%, puis 2,7% et enfin 3,2%. Et pendant ce temps-là, en Europe, la zone euro joue avec une autre partition. Après plusieurs mois de calme, l'inflation est repartie à la hausse en septembre. Elle atteint 2,2% sur un an contre 2% en août. Pas de quoi déclencher une panique, mais assez pour conforter la BCE dans son choix de mettre la baisse des taux en pause. Si on regarde les performances de la semaine, je vous l'ai dit, le SMI, c'est la deuxième meilleure performance de notre tableau. Le Bitcoin a fait mieux, bien sûr. Autrement derrière, on a le SOX qui prend encore 4,42%, la folie des semi-conducteurs. Je lisais une brève nouvelle dans la presse de ce matin qui disait « Oui, l'enthousiasme sur les semi-conducteurs permet aux indices de monter sans blague. Le Silver qui continue plus 4% de nouveau, le Hang Seng qui prend 3,88%, le DAX qui reprend 2,69% et qui joue de nouveau avec les plus hauts historiques, le CAC 40 qui n'est pas encore au plus haut historique mais qui a cassé sa résistance au-dessus des 8000, tout va bien en France malgré qu'ils n'ont pas de gouvernement. Autrement, l'Espagne, vous voyez très bien aussi, l'Italie va pas mal aussi. Shanghai prend 1,43%, mais était fermé depuis mercredi pour cause de fête nationale. Je crois qu'ils reviendront au bureau lundi matin ou mardi matin. Le Nikkei est en hausse de 0,9%. Ils vont voter pour leur nouveau Premier ministre ce week-end. Après, apparemment, ça pourrait être une femme pour la première fois. Et le pétrole s'est pris 7,36% dans la tête. Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi que l'OPEP qui va se réunir ce week-end va augmenter la production pour reprendre des parts de marché. Donc le pétrole est revenu au plus bas. Alors on avait vu le chart la semaine dernière parce qu'on était au top du range. Ben vous verrez tout à l'heure qu'on est redescendu bien en dessous. Si on regarde le SMI, alors on va en parler tout à l'heure en détail, mais les winners de la semaine, c'est clairement Roche et Novartis, plus 13% sur Roche, plus 6,93% sur Novartis, Lonza qui suit derrière 6%. Alors évidemment, il n'y a pas de grand mystère, merci les accords sur la pharma qui ont été annoncés cette semaine par Donald Trump, on va en reparler en détail, mais c'est vraiment ce qui a tiré l'indice cette semaine. Autrement, vous avez Alcon qui rebondissait, qui reprend 4%, Logitech qui prend 4%, mais sans grande nouvelle. Logitech, c'est parce qu'on a le seul tech qu'on a dans les SMI, donc ça tire un peu devant. Et puis tout le reste, eh bien, ça consolide. Holcim mais un peu sous pression de nouveau. Amrise a toujours de la peine, mais ça va un petit peu mieux cette semaine. Enfin, ils remontent des signes de vert, on va dire. Et l'UBS, avec son histoire de fonds d'investissement qui perdent beaucoup d'argent, eh bien, ils gagnent quand même 0,74% sur la semaine. Et on va en reparler dans les vedettes de la semaine tout à l'heure. Voilà le SMI, on rentre dans l'aspect graphique. Alors souvenez-vous, la semaine dernière, je vous disais qu'il y avait un point d'entrée qui se situait autour des 11 850. On n'a juste pas allé à 11 850, mais on a fait un reversal et on est revenu dans cette espèce de tendance haussière qui traîne depuis longtemps, qui passe ici. Et donc là, on a fait notre rebond à cet endroit-là et on a enquillé 5 séances de hausse consécutive. Et vous voyez qu'on termine la semaine en dehors de la résistance. Donc aujourd'hui, on est plus haut que lors du Liberation Day du mois d'avril. On n'avait plus été plus haut depuis ce moment-là. Donc on avait commencé notre chute à ce moment-là, mais on est en train de récupérer le terrain. Et là, on vient terminer au plus haut et on a comblé le gap qu'on avait laissé ici, ce qui est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais il y a encore des choses à aller chercher un petit peu plus haut. On est encore loin des plus hauts historiques, on a encore pas mal, quasiment 800 points à tirer pour y aller. Mais pour l'instant, on a vécu une très très belle semaine. Alors attention maintenant, le challenge de la semaine qui nous attend, ce sera vraiment ce range ici qui va être compliqué à tenir, à rester en dessus. Mais si on arrive à consolider là au-dessus, on pourra commencer à faire la marche suivante pour aller chercher les plus hauts de tous les temps sur le SMI. On verra tout ça au fur et à mesure. L'indice où il n'y a rien à dire, techniquement, c'est le S&P 500. Vous voyez, boum, tendance haussière, point barre. Pas une semaine de baisse, on est tout le temps en hausse sur la semaine. On est revenu au plus haut de tous les temps. Voilà, il n'y a rien à dire sur le chart. Pour l'instant, tant qu'on ne casse pas cette tendance dans laquelle on est depuis... depuis le mois de mai quasiment, là, qui a été déclenché après l'histoire du mois d'avril, il n'y a pas de raison de paniquer sur le S&P 500. On pourrait même revenir à 6580 avant de commencer à avoir des sueurs froides. On peut aller même chercher dans une extension la moyenne mobile à 6498. Mais comme je vous le disais pour l'instant, de toute manière, tant que le shutdown n'est pas réglé, ça ne change pas grand-chose. Et on part sur le principe que comme c'est une mauvaise nouvelle qui perdure, eh bien, les taux vont baisser. Donc le marché n'a pas l'air de vouloir faiblir. Le Nasdaq, pareil, même histoire. Alors le Nasdaq, la seule chose qui change, c'est que là, on voit quand même qu'on arrive... en haut du range, alors attention, ça peut entraîner un peu de volatilité, mais la tendance haussière n'est pas à remettre en question sur la tech pour l'instant. Il n'y a aucun doute à se poser, aucune question à se poser sur le secteur technologique qui continue à aller très très bien. D'ailleurs, regardez Nvidia qui a terminé aussi quasiment au plus haut de tous les temps après avoir annoncé le rachat, l'investissement de 100 millions de dollars dans OpenAI. Donc ça continue à aller toujours très très bien sur Nvidia. Quoi qu'il fasse, ça a l'air d'être reconnu comme odeur de sainteté et tout va bien, ça continue de monter d'ailleurs. On l'a vu sur les perfs, le semi-conducteur index a mis du temps à aller rechercher ses plus hauts historiques, mais depuis, alors c'est la fête du slip, c'est l'envol total. On était à 5906 début mi-septembre et là on est déjà à 6583. Difficile de dire où ça va s'arrêter, mais en tout cas pour l'instant il y a un engouement assez phénoménal sur les semi-conducteurs. On a encore vu des bonnes nouvelles sur Intel cette semaine, donc franchement on a l'impression que c'est le nouvel or noir, ou le nouvel or tout court, parce que finalement l'or performe mieux que l'or noir en ce moment. Donc voilà, c'est un nouvel moyen d'investir, c'est les semi-conducteurs. Tout le monde est chaud bouillant sur la thématique. Le CAC 40, on n'est pas encore au plus haut historique, mais on prend le chemin. On a cassé vraiment ce range dans lequel on était. J'en ai longuement parlé ces derniers mois. Vous voyez que ce rectangle-là, eh bien, on est sorti. Donc là, assez logiquement, on devrait continuer à aller plus haut. Et je pense raisonnablement qu'on pourra aller rechercher les plus hauts au-dessus des 8200. On peut tabler sur un effet pendule, hein, quand vous avez ce range qui représentait quand même au plus bas 7500 et 8000, on a 500 points joués à la hausse pour faire un effet pendule. Alors ça ne veut pas dire que ça va se faire la semaine prochaine. On devrait en France avoir un gouvernement normalement la semaine prochaine, mais bon, a priori ce sera qu'un jeu de chaises musicales, mais ça on a bien compris que le marché s'en foutait complètement. En tous les cas, pour l'instant, ça va pas mal sur le marché français, on a réussi à sortir de ce range latéral. Le DAX, il est au plus haut de tous les temps, il est allé chercher un plus haut, il a frisé les plus hauts, je sais même pas si on est allé la semaine dernière, mais vous voyez qu'on est retourné au plus haut. Là aussi, on a glandé là vraiment pendant quasiment un mois sur les plus bas. Et puis là, tout d'un coup, boum, on a accéléré. C'est parti comme en 40. Et on a l'impression qu'on va aller rechercher vraiment ces plus hauts historiques. Là aussi, la tendance qu'on avait quittée pendant un bon moment, on aurait pu s'inquiéter de cette sortie de tendance. Mais non, on a repris la tendance moyen-long terme ici. Et donc, on est nouveau dans ce canal aussi qui nous ramènera probablement au plus haut sur le DAX. En même temps, tout le monde est super bullish partout. Donc, pas trop d'inquiétude à avoir pour le moment. Il n'y a pas de signaux de faiblesse. Même, je vous l'ai montré au courant de la semaine, tous ces signaux où les gens se disent « Ouh, attention, la fin du monde est proche ». Non, pour l'instant, tout va bien. Les gens ne regardent pas ça, les investisseurs ne regardent pas ça et on continue de regarder en haut. On termine avec le pétrole. Alors, voilà, il y a encore la flèche que j'ai laissée la semaine dernière. Vous voyez, hein, attention, l'objectif, c'était la moyenne mobile des 200 jours. On est allé chercher plus ou moins ces niveaux-là. On s'est arrêté à 66 et des poussières la semaine dernière. Et depuis, on parle d'ouverture des vannes de l'OPEP. Donc, on a retourné en bas, cassé le support. Donc, techniquement, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas beau. Vraiment pas beau. On verra ce que va annoncer l'OPEP ce week-end, mais c'est pas terrible parce qu'on pourrait clairement aller rechercher à l'aise elle est plus bas autour des 55-56 dollars. Je vous le disais la semaine dernière, je crois que Trump, ça l'arrange pas d'avoir un pétrole si cher. Donc, quelque part, au milieu de tout ça, il se passe exactement ce qu'il veut. En plus, il est en train de mettre la pression sur la Russie parce qu'on sait tous que le baril en dessous de 65 dollars, ça les arrange moyennement, les Russes. Donc, du coup, forcément, ça arrange beaucoup Donald Trump. Donc, on peut se dire pas forcément surpris de ce retour de manivelle. Après une très, très belle hausse la semaine précédente, eh bien, on vient de se taper une très, très moche baisse. On attaque avec les vedettes de la semaine et on commence par les pharma, bien sûr. Alors, si on regarde les perfs du SMI, les leaders incontestés sont bien évidemment Roche, Novartis et Lonza. En gros, tout ce qui touche à la pharma de près ou de loin. Et pourtant, c'est pas que Roche ou Novartis aient annoncé un truc exceptionnel. La raison se trouve encore une fois de l'autre côté de l'Atlantique. Donald Trump, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, a encore trouvé le moyen de transformer la politique en show télévisé. Son dernier coup, un deal surprise avec Pfizer, officiellement pour rendre les médicaments plus abordables. En pratique, c'est du théâtre bien rodé. Pfizer accepte de vendre certains traitements à prix cassé via un site gouvernemental, ça ne s'invente pas, qui s'appelle TrumpRx, et d'appliquer à Medicaid des tarifs Most Favored Nation, en clair aussi bas qu'en Europe ou au Canada. En échange, Trump promet 3 ans de tranquillité tarifaire si Pfizer investit massivement aux États-Unis. Et résultat immédiat, explosion du cours de Pfizer et effet d'entraînement sur tout le secteur pharma aux États-Unis. Et dans le reste du monde, les investisseurs ont vu dans ce deal non pas un danger, mais une protection contre la régulation plus brutale. Wall Street adore quand tout le monde peut prétendre avoir gagné, Trump fait le héros, Pfizer sauve ses marges et les traders se remplissent les poches. Mais la vraie question reste ouverte, quels médicaments sont concernés, jusqu'où iront les rabais et combien de temps les autres géants de la pharma vont-ils résister avant de signer le même pacte. Pour l'instant, c'est une victoire narrative, mais comme toujours avec Trump, il faut se méfier de la mise en application. Quoi qu'il en soit, nos pharmas suisses ont bien aimé les annonces du président, et voir le bon rush monter de 13%, c'est pas toutes les semaines. Voilà, ça se passe de commentaires. Je vais tirer une résistance la semaine dernière qui passait par les 274, bam, tout est cassé, les plus hauts qu'on a fait là-bas, tout est cassé, et on termine la semaine au plus haut à 286,80 sur le bon rush. Le prochain objectif, c'est d'aller boucher le gap qu'on a laissé ici autour des 300 francs suisses. Et puis après, il y a tout le monde qui va venir upgrader le bon rush, et puis on va retourner en direction des 400 balles. C'est un peu le scénario idéal. Novartis, la résistance des 100-102 a littéralement implosé aussi. Donc là aussi, c'est reparti à la hausse chez Novartis. Et on peut estimer qu'elle peut aller chercher le haut de son range maintenant en direction des 109-110. Donc tout va bien. Attention néanmoins quand même aux indicateurs qui sont quand même pas mal surachetés ici. Ça peut encore nous freiner un petit peu. Mais en tous les cas, belle semaine, très très belle semaine pour le secteur pharmaceutique. Ensuite, il y a l'UBS. Alors, on en a déjà parlé hier dans le Morning Bull, mais je reviens quand même rapidement dessus. Donc, l'UBS se retrouve coincé dans un sacré merdier américain. Le fournisseur de pièces automobiles First Brand Group, endetté jusqu'au cou, a donc déposé le bilan au Texas. Ça représente 6 milliards de prêts qui n'ont pas pu être financés et des combines de financement hors bilan que même Houdini aurait trouvé ça un tout petit peu bizarre. Résultat, les fonds d'UBS sont exposés à plus d'un demi-milliard de dollars, et pas seulement via une ligne de crédit classique, par tout un cocktail d'investissements créatifs. UBS Hedge Fund Solution, plus gros créancier non garanti avec une ardoise de 233,7 millions. O'Connor, la boutique Hedge Fund d'UBS qui vient de vendre à Cantor Fitzgerald 116 millions qui s'envolent. UBS Asset Management, plus de 160 millions de prêts garantis, dont un sidecar monté en juin pour attirer du capital privé. En juin, 3-4 mois à l'arrière. Et parce que ça ne suffisait pas, UBS a fait aussi partie aujourd'hui du club des secouristes. Ils ont créé un pool de prêteurs qui vient d'avancer 1,1 milliard de dollars pour éviter que First Brand ne ferme ses portes tout de suite pendant la procédure. Autrement dit, ils remettent au pot pour maintenir en vie une boîte qui suspectait déjà de manipuler son hors-bilan. Un avocat du groupe de prêteurs l'a résumé sans filtre. On vient de foutre 1,1 milliard dans une boîte noire, c'est un vrai prêt de sauvetage négocié sous pression avec un risque colossal. Le bilan est simple, UBS se retrouve avec une exposition massive, au pire moment, dans un dossier toxique qui met en lumière les dangers du private credit et des montages de financement opaques. Officiellement, la banque temporise, on évalue l'impact et on protège les clients, oui, bien sûr, traduction, on croise les doigts pour que ça ne dégénère pas. Et cerise sur le gâteau, la mésaventure touche aussi O'Connor, la division hedge fund QBS a justement décidé de vendre à Cantor Fitzgerald. Ironie parfaite, il refile la patate chaude pile au moment où ça explose. Bref, 500 millions pour l'UBS, c'est pas grand-chose, mais c'est plus un problème d'image, un problème de risque et de risque réputationnel. Et ça tombe pile au moment où le Conseil fédéral est en train de leur mettre la pression pour renforcer leur base de capitaux, pour éviter qu'en cas de crise plus grave, ça pète encore une fois à la gueule du contribuable. On aurait pu rêver mieux comme timing. Pour ce qui est de l'impact sur le titre, il est nul. Le titre termine même la semaine en hausse de 0,74%. Et en revanche, on peut se poser des questions sur les méthodes de financement des sociétés comme First Brands. Et dans l'article d'Inside Paradeplace qui a sorti l'histoire, On parle d'un petit Green Seal, la fameuse affaire qui a sonné l'alali pour le Crédit Suisse qui se sera fait absorber à la fin par l'UBS. Quand je parle du monde merveilleux de la finance, le monde de la banque, c'est quand même pas mal non plus. Avec tout ce que je vous ai raconté, on aurait pu se dire que c'était la samba sur le titre cette semaine, mais que nenni, que nenni. Alors sur l'annonce, on a une petite faiblesse du genou, mais alors franchement, il n'y a pas de quoi la ramener. On a perdu 0,68% sur l'annonce et on finit quand même quasiment 2% plus haut le lendemain. Donc ça va plutôt pas mal, 32,73 en closing de la semaine. Vous voyez que ce support bricolé qu'on a depuis un moment, qui est au niveau des 31,80, on va dire, il tient comme un roc pour l'instant, malgré les annonces qui ont été faites cette semaine, qui ne sont pas toutes très 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 jolies. Ça se bagarre toujours au niveau des capitaux propres, et c'est vrai que dans ce sens-là, ils n'ont pas forcément marqué des points. Affaire à suivre, mais en tous les cas, 500 millions, ça reste quand même pas grand-chose pour une banque comme l'UBS en ce moment. Sika a encore sorti le carnet de chèques, direction le Danemark, où le groupe suisse a mis la main sur Marlon Thormortel. Thormortel, sympa comme nom ça. Un fabricant de mortiers, pas glamour, pas sexy, mais stratégique. Ça permet à Sika de poser un vrai pied dans les pays nordiques et de se servir de cette acquisition comme tremplin pour vendre tout le reste de sa quincaillerie chimique. Marlon, c'est du béton au sens propre, mortier pour entrepreneurs, fabricant d'éléments préfabriqués et applicateurs spécialisés, le tout distribué aussi via les marchands de matériaux. En gros, une base solide qui touche directement le terrain. La promesse de Sika, c'est du cross-selling à gogo. On mixe la force de frappe commerciale des deux boîtes et on arrose le marché nordique de solutions complètes clés en main. Christophe Gans, le patron MEA, résume le tout en mode corporate. On muscle notre présence dans les gros mortiers et on va mieux servir nos clients. Traduction, on veut vendre plus partout et à tout le monde. Par contre, petit détail, on ne connaît pas le prix de la transaction. Voilà, sur le graphique, il n'y a rien à dire. Mais en tous les cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'air d'avoir fait un fond quelque part sur Sika et que pour l'instant, on essaie de reconstruire quelque chose. Alors, on n'a pas, on a une tendance baissière qui est toujours extrêmement présente. Je m'emballerai quand on cassera la moyenne mobile des 50 jours à la hausse. Et là, on en reparlera parce qu'évidemment, on pourra commencer à parler de changements, peut-être de tendance. Et pour l'instant, on se tient en vie après avoir cassé ou affiché les nouveaux plus bas depuis bien longtemps sur Sika, vous le voyez. En ce qui concerne le en vrac de la semaine, Givaudan sort 40 millions pour une nouvelle usine à Canton, dans le sud de la Chine. Objectif, muscler sa présence dans les parfums et arômes sur un marché qui pèse très lourd. SGS va superviser la construction du futur stade du FC Valence en Espagne. Livraison attendue en 2027. Un joli coup de vitrine pour le Suisse de l'inspection. Landis & Gyr se sépare de ses activités Europe, Moyen-Orient et Afrique, reprise par le fonds allemand Aurelius pour 215 millions. Millions de dollars, histoire de recentrer son business. Ipsomed présente son plan stratégique à horizon 2029, visé entre 900 millions et 1,1 milliard de chiffre d'affaires et sortir jusqu'à 340 millions de résultats opérationnels entièrement concentrés sur ses dispositifs d'injection. Les banques cantonales lèvent des fonds, Vaud place 130 millions avec un emprunt qui court jusqu'en 2040 et la banque du Jura emprunte 100 millions avec une échéance en 2028. Adex continue de brûler du cash et creuse sa perte à mi-parcours, preuve qu'en biotech, la recherche coûte cher et prend du temps. Et chez Ritter, on apprend que JP Morgan détient désormais près de 30% du capital, de quoi faire bouger les lignes dans la gouvernance. Le fonds immobilier Pure Swiss Opportunity sera coté à la SIX dès le 20 octobre. Autorisation finement en poche, nouvelle offre pour les investisseurs publics. La vaudoise assurance continue ses emplettes dans le conseil aux caisses de pension et rachète Ecofin Investment Consulting après Pitet Associés et Prevento. Ipsomed a aussi terminé la construction de sa deuxième usine à Schwerin en Allemagne. Production prévue début 2027. DKSH va distribuer le café Nanyang et les pâtes à tartiner Kaya du groupe malaisien oriental Kopi vers Singapour. Diversification exotique. Mobilezone négocie la vente de ses activités allemandes avec Freenet. Ça, c'est selon la presse allemande. Ritter boucle son augmentation de capital. Plus de 460 millions levés pour financer la reprise de l'unité Barmag auprès d'Hurlicon. Sensirion s'allie avec l'américain Avnet pour distribuer ses capteurs électroniques à plus grande échelle. Sunrise refinance sa dette avec un package de prêts de 900 millions pour remplacer une obligation en dollars à 5,5% qui arrive à échéance en 2028. Alzo réduit son comité de direction de 8 à 4 membres pour accélérer la prise de décision. Barry Calbo pourrait quitter la bourse suisse. La famille Jacobs discute avec CV Capital Partners selon Bloomberg pour la ramener en privé. Clarion, toujours empêtré dans l'affaire d'entente sur les prix de l'éthylène, BP et ExxonMobil ont lancé des procédures en Allemagne. Santhera obtient l'homologation au Canada pour Agamree, son traitement contre la myopathie de Duchenne, la seule thérapie approuvée pour les patients de 4 ans et plus. Plus et Ublox. Le projet de reprise par Advent avance. La COPA a rejeté l'opposition de deux actionnaires qui tentaient de bloquer le deal. Voilà où on en est. Une semaine schizophrène. Les États-Unis paralysés par le shutdown, mais Wall Street en pleine euphorie bat record sur record. En Suisse, l'économie avance en mode petit pas, mais l'hôtellerie cartonne et la BNS garde la main sur le front. L'Europe, elle, retrouve une inflation qui repart doucement et pendant ce temps, les marchés continuent de transformer chaque mauvaise nouvelle en bouteille de champagne. Alors la vraie question aujourd'hui, c'est pas est-ce que ça va craquer, mais plutôt quand est-ce que ça va craquer ? Parce que tant que tout le monde croit à la baisse des taux, à l'IA qui sauvera le monde et au deal politique façon télé-réalité, la Fed continue et continuera. Mais attention, plus on monte sur un château de cartes, plus la chute peut être extrêmement violente. On n'aura pas forcément beaucoup de chiffres très intéressants la semaine prochaine tant qu'il n'y a pas la fin du shutdown, donc on verra ça au fur et à mesure. Merci d'avoir suivi ce Swiss Bliss. Si vous voulez comprendre la bourse sans vous prendre la tête et avec un tout petit peu d'humour, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Autrement, likez, partagez, commentez. Et nous, on se revoit lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et d'ici là, excellent week-end à tous. Bye bye.